bien, donc, nous sommes dans ce deuxième module du cours réseau Azure pour les à destination des administrateurs AWS. Et donc, dans ce module, on va détailler un petit peu plus, cette fois-ci techniquement, ce qu'on a du côté Azure en termes de services réseau. Alors, pour commencer, base du réseau, le réseau virtuel. Donc, dans Azure, on va pouvoir créer des réseaux virtuels, ce qu'on appelle des VNet, Virtual Network, mais c'est VNet le terme qu'on va utiliser. Et en tant qu'administrateur dans la plateforme Azure, on va pouvoir choisir le point d'adressage qu'on va utiliser au sein de ces VNet, et c'est sur ces VNet que seront connectées les machines virtuelles. Le point d'adressage, il est relativement classique, hein, c'est la RFC 1918, hein, donc on inclut les adresses du type 10 quelque chose, 172.16 quelque chose, et puis les 192.168, encore les tout à fait classiques. On va choisir donc du coup, ainsi grâce à ces différents VNet, le positionnement des machines virtuelles, et on va pouvoir rediviser ces réseaux virtuels en sous-réseaux virtuels, ce qu'on appelle des subnets. L'attribution au sein de ces subnets ou VNets de l'adressage IP se fait de manière dynamique. Donc tout est, on va dire qu'on a un super DHCP au niveau de Azure qui s'appelle la fabrique, et qui va en fait distribuer les paramètres IP et les IP aux différentes machines virtuelles. Donc surtout ne jamais fixer en dur les paramètres dans une VM, c'est relativement une mauvaise idée. Au passage, on a un bail qui est relativement élevé sur ces distributions d'adresses IP. Néanmoins, si vous souhaitez fixer une adresse IP à une machine pour une raison qui peut parfois être parfaitement légitime, il est possible de faire entre guillemets une réservation, on appelle ça Reserve Static IP, mais tu veux nous en parler tout à l'heure Arnaud, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. En termes de résolution de nom, deux options, soit on utilise le DNS intégré à Azure, qui a ses limites, et là encore tu vas nous les exposer, soit on peut utiliser un DNS particulier. Et dans ce cas-là, c'est vous qui le définissez. DNS qui pourrait être effectivement un DNS type Active Directory ou Bind ou autre. Mais ça, je vais te laisser après nous détailler.
Donc effectivement, quand on va créer une machine virtuelle, on va la connecter sur un VNet à l'intérieur d'Azure. Alors à noter que pour le moment, on ne supporte que IPv4, IPv6 c'est dans les cartons, mais comme on n'a pas une demande très forte dessus, ben, on le conserve encore un petit peu dans les cartons, mais c'est évidemment planifié. À noter qu'on peut avoir plusieurs interfaces réseau par machine virtuelle si c'est nécessaire. Important à souligner également en matière de communication, on ne supportera que de l'unicast, il n'y aura pas de broadcast ou de multicast qui sera supporté pour communication entre les différentes machines que je vais placer dans un réseau virtuel, donc très important pour l'architecture de mes applications. On l'a dit, les adresses IP sont distribuées automatiquement aux machines, donc si on veut réserver, pré-réserver une adresse IP, c'est tout à fait possible, soit dans le nouveau portail en interface graphique, soit en PowerShell avec get-azure-static-vnet-ip. Et ensuite, cette Azure Static VNet IP va nous permettre en fait simplement de réserver et d'attribuer l'adresse IP à l'intérieur du VNet pour une machine virtuelle. Quand vous créez un réseau virtuel, un VNet, et que vous créez différents VNet, le routage est fait automatiquement, il n'y a pas à s'en préoccuper outre mesure, c'est du routage complet. Notons également que 4 adresses IP sont réservées à l'intérieur de chaque réseau virtuel pour simplement les besoins de routage et de communication à l'intérieur de du réseau virtuel et pour aller communiquer avec l'extérieur également.
Donc les adresses 0, enfin .0, .1, .2 et .255.
Exactement. Voilà. À noter que quand on crée une machine virtuelle dans Azure, on va la rendre disponible depuis l'extérieur en utilisant le Azure Load Balancing. Ce Azure Load Balancing, il va permettre de déterminer comme ça à partir d'une adresse IP public qui est attribué à mon service de cloud, c'est-à-dire mon ensemble de machines, d'aller déterminer le load balancing qu'on va faire sur l'ensemble des VM qui sont à l'intérieur de mon réseau virtuel. Donc on n'a pas forcément d'accès aux algorithmes de load balancing qui va propager le trafic sur l'ensemble des VM, mais on peut déterminer comment le trafic va être envoyé vers les différentes machines virtuelles. Alors, qu'est-ce qui est fait en matière d'isolation et de protection des accès réseau? Donc, on voit tout au centre qu'on a notre cloud service, qui est en fait notre enveloppe qui va contenir nos différentes machines virtuelles. À l'intérieur de ce cloud service, on va évidemment avoir le firewall qui est présent sur les machines à l'intérieur de mes serveurs. Il y a évidemment de question de désactiver IP tables, de désactiver le firewall de Windows quand on publie des machines. On a une possibilité de filtrer les communications qui sont données entre des machines à l'intérieur de mes réseaux virtuels en utilisant ce qu'on appelle les NSG, les Network Security Group, on en discutera un petit peu plus tard. Ce qui est clair, c'est que de toute façon, il existe une isolation entre les différents locataires des plateformes de cloud. Évidemment, il n'y a pas question qu'il y ait de collision entre les différents locataires des plateformes Azure. Donc pour ça, on a une isolation entre les réseaux virtuels qui est basée sur la virtualisation d'un réseau en utilisant des technologies comme NVGRE, ce qu'on utilise dans le monde du data center à l'échelle d'Azure. Il y a des ACL qui sont évidemment possibles et un ensemble de mécanismes de protection contre le denier de service pour la publication des ressources depuis l'accès vers l'extérieur, évidemment. Donc les deux derniers, on va dire, couches de l'oignon sont ceux qui sont administrés par Azure sur lesquels on n'a pas forcément, accès, la couche de protection contre les denier de service.
Petit point d'ailleurs, si par hasard vous hébergez des machines virtuelles ou des applications dans Azure et que pensez que c'est une bonne idée de lancer une attaque ou des tests de pénétration pour vérifier si votre application résiste ou pas, c'est pas forcément une très très bonne idée parce qu'en fait ça risque de lever des alertes dans nos data centers et potentiellement de couper ou de réinitialiser certaines connexions. Il est possible de le faire, il y a juste en fait à passer par un formulaire de déclaration pour préciser quand c'est que vous allez le faire et le périmètre de votre test de pénétration. Afin effectivement de ne pas déclencher des fausses alertes, qui seraient des vraies alertes d'attaque, mais qui seraient fausses parce que ce serait vous qui les déclenchez pour des raisons de test. Voilà.
Voilà pour cette protection depuis l'extérieur. Alors si on revient maintenant un petit peu plus dans le monde du réseau interne, on a dit tout à l'heure que on peut faire de la résolution de nom en utilisant le Azure Name Resolution, qui est l'option qu'on a quand on choisit rien. En fait, quand on ne spécifie pas à la création du bon réseau virtuel, quand on ne spécifie pas de créer un DNS. Mais en fait, on va utiliser l'Azure Name Resolution qui est vraiment quelque chose qui va permettre de résoudre les noms vers l'extérieur. Donc pas d'enregistrement avancé de type SRV, de type CNAME, on n'aura pas plusieurs noms par machine virtuelle. Il y a aussi un traffic pacer qui va limiter le fait qu'on va faire plein de requêtes DNS. C'est par exemple parmi les techniques qui peuvent exister d'exfiltration d'informations via l'encapsulation DNS. Donc on se protège de ce genre de choses avec un pacer, un traffic pacer, qui est relativement classique dans le monde du réseau. Si on a besoin de choses un petit peu plus avancées dans le DNS, on va utiliser des serveurs DNS dédiés. On l'a dit, ça peut être soit les serveurs DNS de l'Active Directory si on fait du Windows, ou ça peut être un bind pour faire toutes les choses auxquelles et tous les plaisirs auxquels vous êtes habitué dans votre DNS habituel. Au niveau de Azure, on l'a dit, quand on crée une machine virtuelle, quand on crée un service de cloud, au moment de l'instanciation, on va attribuer une adresse IP à ce service de cloud. Cette adresse IP, elle pourra être déprovisionnée si j'utilise plus mon service de cloud. Par contre, j'ai parfois envie de garder cette adresse IP. Et si je veux garder cette adresse IP-là, je vais pouvoir la réserver. Donc c'est avec une commande PowerShell, new Azure Reserved IP. Et on va pouvoir dire, voilà, cette adresse IP-là, tu me la gardes, c'est pour moi, tu me la mets au frais. Je vais pouvoir l'attribuer à un cloud service ou un ensemble de VM. Et puis, je vais pouvoir, par exemple, si je fais une migration, ben, prendre cette adresse IP-là et puis la rediriger ensuite vers un autre service de cloud. C'est derrière cette adresse IP-là qu'on va évidemment déterminer le load balancing pour envoyer un trafic vers, ici, comme dans mon exemple, soit le trafic vers la machine orange ou la machine bleue. Donc, c'est un peu l'équivalent des élastiques IP, c'est ça?
Ah bon, orange, ils sont sur Azure.
Oui, aussi, oui. Alors, en matière des adresses IP qu'on peut réserver, il y en a 5 qui incluent avec chaque abonnement Azure. Si vous en voulez plus, vous pouvez tout à fait nous appeler, on sera ravis de vous en facturer l'usage pour un certain nombre de plus. Je précise facturer, alors en fait, pour être un petit peu plus précis, si on réserve une adresse IP mais qu'on ne l'utilise pas dans un service de cloud, on va vous le facturer quelques euros par mois, c'est normal. C'est une ressource qui est rare sur le monde de l'Internet, une adresse IP publique.
On va éviter de gâcher, d'autant qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait des places de marché pour revendre des adresses IP V4.
Ben, on l'avait prévu, hein, mais effectivement, il y a un marché noir à adresse IP qui existe. C'est tout à fait normal pour toute ressource qui est rare.
Okay. Donc, ce qui est rare est cher.
Absolument. Donc on a effectivement la possibilité de réserver ces adresses IP, mais à partir du moment où l'adresse IP est réservée et utilisée, liée à un cloud service ou une VM, elle n'est pas facturée outre mesure, puisque ça fait partie du service classique qu'on vous fournit, évidemment.
Alors, deuxième cas, il y a le cas souvent de la machine virtuelle, effectivement, qui a besoin d'avoir son adresse IP dédiée au-delà du load balancer, souvent pour les services type FTP, choses comme ça, où effectivement il y a un petit peu des contraintes souvent. Alors qu'est-ce que donc on a?
Eh bien, dans ce cas-là, on va faire un get-azure.com. public IP et un set Azure public IP. Et c'est effectivement ce qu'on appelle une adresse IP par instance, où on va donner une adresse IP qui sera mappée directement à la machine virtuelle. Alors attention, hein, pas de précipitation ni trop d'excitation. On va pas avoir directement l'adresse IP qui va être mappée dans la VM. On verra une adresse IP de type 6598, RFC 6598. Mais on aura un mapping bidirectionnel qui existera en fait entre une adresse IP publique d'Azure et puis la RFC 6598 à l'intérieur de la VM. Donc des choses assez classiques dans le monde du réseau.
Tu peux nous rappeler la RFC ?
La 6598, pour le longue soirée d'hiver, c'est effectivement une plage d'adresse IP un petit peu en complément de la 1918, qui est dédiée à l'espace d'adressage privé pour les opérateurs de cloud, en fait. Pour les ISP ou opérateurs de cloud. Enfin, en gros, on utilise ça pour venir ajouter à la RFC 1918. Équivalent cette fois-ci à
Route 53,
ça s'appelle Azure Traffic Manager. Ça va permettre de rediriger des clients selon des critères. Parmi ces critères peuvent être ce qu'on appelle la performance ou la géographie. En gros, on va détecter par rapport à l'adresse IP du client qu'est-ce qui est assez vraisemblable, soit proche de lui en matière d'IP. Alors il y a une autre méthode qui est la méthode round robin, où en fait le premier client va avoir la première adresse IP de la liste, le deuxième client va avoir la deuxième adresse IP qui va lui être renvoyée en fait à une requête DNS. Et puis la troisième, c'est le mode failover, où j'ai toujours le même record qui est envoyé à mes clients, sauf au cas où il ne marche pas, et là j'ai envoyé le record de failover.
Donc on est sur un mécanisme qui est vous créez votre nom, votre enregistrement dans votre nom de domaine à vous, www.macompagnieamoi.fr par exemple. Dessus, vous créez un alias en fait vers un nom qui est un nom d'un service dans Azure, donc qui terminera par .trafficmanager.net. Ça, ce sera votre Azure Traffic Manager, votre point d'entrée Traffic Manager. Et puis effectivement, ensuite, dans Traffic Manager, vous allez configurer effectivement les différents endroits où vous voulez envoyer les requêtes. Donc vous pouvez faire ça sur service de cloud numéro 1, numéro 2. Vous pouvez même renvoyer des requêtes dans votre data center, par exemple. Et du coup, comme ça, la boucle est bouclée.
Alors, on appelle ça Traffic Manager. En fait, il ne gère pas vraiment beaucoup de trafic en tant que tel. Ce n'est pas une gestion du trafic. C'est vraiment une redirection, point de vue DNS par rapport à un record.
C'est résolution intelligente DNS, on pourrait appeler ça.
Exactement. En complément, Azure DNS en fait, va venir me permettre de rajouter un petit peu plus de choses. Ce que nous permet Azure DNS, vous allez le voir en tant que service, c'est principalement d'héberger vos zones DNS directement chez nous, de faire des opérations programmatiques sur ces zones DNS, c'est-à-dire que globalement vous avez déployé un service, vous avez utilisé PowerShell pour créer vos VM, et bien vous allez pouvoir en même temps tout provisionner en PowerShell à l'intérieur de la liste de commandes.
Donc créer les enregistrements associés à la VM déployée, etc. etc. quoi.
Exactement. Le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir être beaucoup plus agressif que l'autre fournisseur de DNS classique, en jouant sur les TTL directement, en faisant des opérations directement depuis PowerShell, tout sera fait de manière synthétique et atomique.
Et puis du coup, on déploie le service et la résolution pour les clients à l'extérieur de ce service.
Exactement. Il y a fort à parier qu'on aura des partenariats avec différents fournisseurs de noms, différents registreurs, pour ensuite intégrer toute la valeur de bout en bout.
Oui, c'est les partenariats d'ailleurs avec ces différents registreurs, on les voit déjà avec certains partenaires sur la partie cloud Office 365, ou par exemple dans les Windows Server 2012 R2 et Essential, quand on fait le paramétrage, qu'on arrive sur la partie Office 35, ils proposent directement des registrars, indexés, etc. Donc, il y a des accords qui existent.
Absolument. Pour nos communications à l'intérieur des réseaux virtuels, Stanislas, on nous demande souvent, bon, super, on peut créer des réseaux virtuels, mais premier réflexe de l'administrateur réseau, quand on lui donne un réseau, qu'est-ce qu'il veut faire ?
Il veut tout fermer.
Il veut tout fermer. Effectivement, on a la possibilité de définir des ACL dans Azure. Classique, les ACL pour les réseaux virtuels, on a des règles sur lesquelles on donne un ordre. Et puis, on va dire sur quel subnet ça s'applique, sur quel endpoint, est-ce que c'est un permit ou est-ce que c'est un deny.
Oui, alors donc les ACL s'appliquent en fait principalement sur les endpoints. Dans ce cas-là, on va voir qu'il y a des choses un peu plus intéressantes juste après. Donc ces ACL, effectivement, se définissent sur, on va dire, l'entrée pour les communications qui vont arriver depuis Internet à destination de l'interne. Effectivement, de base, quand on va déployer une machine virtuelle, si elle est Windows, on aura un port classique ouvert qui sera le port RDP, TCP 3389. Si on déploie une machine Linux, ce sera du SSH, TCP 22. Redirigé en termes de numéro de port au niveau du load balancer à l'extérieur. Mais on a effectivement ces règles qui disent, de base, j'autorise la règle, par exemple ici, règle numéro 100, enfin c'est juste un indice, j'autorise le TCP 3389, donc Tunnel Server. Donc si on veut rajouter effectivement ouvrir le web, on ouvrira le port 80, etc. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans ce cas-là, pour ces ACL-là, qui se définissent au niveau du load balancer, ça ne bloque pas les communications intra-VM, intra-subnet, donc inter-VM. Et du coup, la VM numéro 1 peut faire ce qu'elle veut quasiment avec la VM numéro 2. On a certes les pare-feu personnels sur les hosts, mais peut-être qu'on peut avoir envie de dire les machines numéro 1 et 2, c'est des serveurs web, et je veux qu'elles parlent avec le numéro 3, qui lui n'est qu'un serveur SQL. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas les ACL qu'on va utiliser sur la partie endpoint, mais c'est autre chose, c'est le slide suivant, qui est
les Network Security Group. Ce qui nous permet de plus stéréotyper et plus industrialiser les règles et l'application des règles dans les VNet Azure et surtout de ne pas avoir à chaque fois qu'on rajoute une VM à modifier l'ensemble des choses. On applique la règle par exemple sur le réseau virtuel et c'est réglé.
On peut l'appliquer sur une VM dans des cas particuliers, effectivement quand on fait un seul subnet et du coup on fait du filtrage comme dans cet exemple ici où on dit que le back-end ne peut pas parler avec le front-end, il y a cette fameuse croix, donc ça c'est quand on est sur un seul subnet. Mais on peut également faire ça entre deux VM. Mais le plus simple, c'est quand même de faire une règle qu'on va appliquer par subnet. Et du coup, on découpe ces subnets dans son réseau virtuel, le subnet frontal, le middle et le back, par exemple.
Donc là, on est en équivalence directe de ce qui est appelé Network Access List chez Amazon, c'est ça?
Ça doit être ça.
Autre mécanique intéressante lorsque l'on déploie des infrastructures qui doivent être hautement disponibles, internal load balancing. L'idée de internal load balancing, c'est que les machines virtuelles qui vont être sur un réseau virtuel, je vais vouloir les rediriger vers un service qui doit être défini comme hautement disponible. Par exemple, nos frontaux web, je veux les rediriger vers un back-end SQL que je vais dénommer, référencer sous une seule adresse IP virtuelle. Et cette adresse IP virtuelle, elle va rediriger vers plusieurs VM. Ces VM pouvant être dans différents réseaux virtuels, mais peuvent même être également à l'extérieur d'Azure, dans votre data center, par exemple, qui est relié avec notre data center en mode site à site. Donc c'est pour des scénarios de haute disponibilité de bout en bout, où on va avoir une haute disponibilité du point de vue de l'extérieur avec le Azure Load Balancer et puis également du point de vue de l'interne avec le Internal Load Balancer. Ça se définit en PowerShell avec New Azure Internal Load Balancer Config et le Add Azure Internal Load Balancer. Voilà pour ce petit tour d'horizon des réseaux. On va voir dans le prochain module l'interconnexion.
L'interconnexion avec effectivement les infrastructures sur site. Et donc, c'est parti pour le troisième module.